Alors, nous allons reprendre la lecture biblique. Il faut juste comprendre que Jésus, ce jour, il est devant les gens en plein air, sans doute. Entre autres, il y a une foule de gens et puis il y a quelques responsables religieux. On les appelle les pharisiens et les scribes. Vous l'avez entendu dans le texte que Pascal a lu. Tous les péagers et les pêcheurs s'approchaient de Jésus. Alors les péagers, c'était des collecteurs d'impôts. C'était les gens avec la plus mauvaise réputation en Israël. Parce que c'était les juifs qui avaient accepté de jouer le rôle de la part de l'Empire romain, de collecter les impôts pour les Romains. Et c'était les gens qui avaient accepté de faire ça un peu en rejetant la foi des juifs. Donc ils étaient connus pour leur malhonnêteté. Ils aimaient l'argent, ils s'enrichissaient un peu dans leur manière de collecter des impôts et un peu plus. Ils beurraient leur pain bien. Et donc c'était des gens de mauvaise vie, immorales. Même Jésus dit à un moment donné, il dit, même les collecteurs d'impôts aiment ceux qui les aiment. Ce qui montre que Jésus, en les prenant pour exemple, montre que tout le monde les prend pour l'exemple de mauvaise vie. Donc les péagers, les collecteurs d'impôts. Ensuite, les pêcheurs. Les pêcheurs, c'est des gens d'une vie immorale notoire, comme des prostituées, etc. Et Jésus allait vers ces gens. Il allait passer des moments avec eux, manger avec eux. Pour les juifs orthodoxes, et surtout pour les responsables religieux, c'était un scandale. C'était un scandale. Cet homme se dit prophète. Il se dit homme venu de Dieu. Et regarde avec qui il passe du temps. Donc c'était scandalisant pour ces pharisiens et ces scribes. Pour donc expliquer sa conduite. Pourquoi il fait comme ça? Pourquoi il passe du temps avec ces gens-là? Jésus raconte trois paraboles. Il raconte trois ensemble. Parce que une seule parabole ne suffit pas, comme vous savez, quand vous essayez de donner une illustration, aucune illustration n'est parfaite. Hein? Et une illustration montre bien un point que vous voulez communiquer, mais un autre point est complètement impossible à mettre dans cette histoire, dans cette analogie. Donc il met ensemble trois paraboles. Vous allez voir que les trois ont trois points en commun. Alors, est-ce que vous vous rappelez de la lecture de Pascal? C'était quoi au début? C'était un homme qui a perdu une brebis, n'est-ce pas? Voilà. Il fait des efforts extraordinaires pour retrouver cette brebis. Il laisse les 99. Finalement, quand il la retrouve, il la ramène avec une grande joie et il trouve ses amis. Il dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la brebis perdue. Une deuxième parabole, c'est la dame qui perd une pièce d'argent d'une valeur importante. Elle a perdu quelque chose de précieux. Elle aussi, elle fait des efforts extraordinaires pour la retrouver. Elle nettoie toute la maison. Et puis, une fois qu'elle la retrouve, avec grande joie, elle trouve ses amis, elle dit, réjouissez avec moi parce que j'ai retrouvé la chose précieuse qui était perdue. Maintenant, nous allons lire notre texte. Cette fois, ça va être un fils perdu. Pas une brebis, pas une pièce d'argent, mais un fils. On va voir les mêmes choses, le fils retrouvé, la joie et le père qui va dire à ses amis, réjouissez-vous avec moi, j'ai trouvé mon fils perdu. Mais le problème c'est qu'il a un fils aîné qui ne se réjouit pas que l'autre fils est retrouvé. Et vous allez voir que le père dans l'histoire, c'est Dieu et c'est Jésus. Jésus explique sa conduite. Voilà pourquoi je fais des efforts extraordinaires pour trouver ces prostituées, ces gens de mauvaise vie. Et il explique sa conduite. Le fils perdu, c'est les gens de mauvaise vie. Et c'est nous tous. On va voir à la fin ça. Et le fils aîné, qui n'est pas content, qui ne se réjouit pas, c'est les pharisiens, les scribes. C'est les responsables religieux qui pensent être à Dieu, qui pensent être des enfants de Dieu, mais qui montrent par leur manque de joie qu'ils ne partagent pas le même cœur que le Père. Ils ne sont pas en accord avec ce Dieu. Ils se réjouissent, Et tous les vrais amis se réjouissent avec une femme qui retrouve une pièce, ou un homme qui retrouve une brebis, ou le Dieu qui retrouve un pécheur. Vous comprenez l'essentiel ? On va lire le texte. Voilà ce que Luc nous raconte de ce que Jésus avait dit. Il, Jésus, dit encore. Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir, donc mon héritage. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, combien de temps ? Quelques années ? Peut-être, il semble, par la suite. Une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs pour garder les pourceaux. Les porcs étaient un animal impur pour les Juifs, ils n'avaient pas le droit de le toucher ou de le manger. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Voilà la situation de misère. Étant rentré en lui-même, ou d'autres versions traduisent cette phrase grecque, parce que c'est en grec Nouveau Testament, étant revenu à lui-même, il se dit, combien de mercenaires, c'est-à-dire plutôt de serviteurs, ce serait une serviteur chez mon père, ont du pain en abondance. Et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit, l'a vu, et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père, qui lui coupe la parole d'ailleurs, il n'arrive pas à dire tout ce qu'il allait dire. Le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez-le au gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit de la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit. Il pria d'entrer, mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers. » Et le mot « servir » en grec est un mot très fort qui signifie littéralement « servir comme un esclave ». « Il y a tant d'années que je t'ai servi comme un esclave. » « Sans avoir jamais transgressé tes ordres. » Ouh là là, tellement bon. « Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. » Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est avec toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu, et qu'il est retrouvé. Trois choses ce matin. D'abord, une chose précieuse perdue. Entretenons-nous pendant un moment sur la perdition, le fait d'être perdu. Et on va sauter, on va aller au milieu de l'histoire. Au début, c'était formidable. Loin de la famille, tout cet argent, il a fait beaucoup d'amis, on a fait la fête, on a trouvé des filles, on a bu de la boisson, et c'était super. Un plaisir inique, éphémère, mais il était bien content au moment. Mais ça n'a pas continuer de cette manière. L'argent n'a pas duré pour toujours. Et lorsqu'il n'avait plus d'argent, les amis ont dit salut. On ne les voit plus. Une famine arrive, la réalité tombe devant lui, il est face à des choses dures. Il se retrouve en compétition avec les mendiants du village, tendant la main, lui qui n'a jamais connu la faim. Et là, il commence, excusez-moi, à en baver. Enfin, il trouve un emploi, si on peut l'appeler ainsi. Il nourrit les pourceaux. Lui qui est juif. Lui qui ne devait pas, sur ordre de Dieu, à cause de certaines lois cérémoniales, pour un temps où Dieu voulait séparer Israël des pays païens autour afin de conserver la croyance dans le vrai Dieu intact jusqu'à ce que Christ vienne, parce que la plupart des juifs n'étaient pas de vrais croyants. Plus plein de ma nation. Comment est-ce qu'on va garder cette chose intacte? Et Dieu a mis en place des lois cérémoniales qui faisaient que les juifs devaient vivre dans la Palestine, ne pouvaient pas manger certaines choses, et ça les séparait culturellement des autres peuples. Bon, il y avait d'autres raisons pour ces lois aussi, des lois symboliques. Mais toute sa vie, il a été enseigné pas de porc, et maintenant il nourrit les porcs. C'est une manière pour Jésus de dire il descend au plus bas de la misère. Il voulait tellement manger ce que les porcs avaient à manger. Il maigrissait, il dépérissait. Dormait plus bien, il était sale, il était souffrant, peut-être qu'il avait un début de maladie. De toute façon, il ne va pas bien. Et si nous parachutons là, à ce moment de l'histoire, sans savoir le reste, nous pourrions faire une erreur fatale. Et c'est l'erreur que beaucoup de gens aujourd'hui font. Il y a de la misère, même si ce n'est pas dans vos circonstances, ça peut être relationnel, ça peut être un mariage qui tourne en vinaigre, ça peut être le fait que tout va bien, sauf dedans, un sentiment de vide, il y a un sentiment de raison d'être, pourquoi suis-je là? Ça peut être beaucoup de choses, mais si nous agissons dans cette manière erronée, nous tournons en rond pendant des années et parfois les gens pendant une vie parce qu'ils pensent que leur problème c'est qu'ils sont au chômage, leurs amis les ont quittés, ça va pas bien, je suis en train de maigrir physiquement, de manière circonstancielle, émotionnellement, je ne vais pas bien, c'est ça mon problème. Et ils essaient de régler ces choses. Mon problème c'est mon mariage qui tourne mal, mon problème c'est cette relation, c'est ceci, c'est cela. Et ça fait partie d'un état perdu, paumé. Jésus est en train de nous dire que le vrai drame de cet homme n'est pas du tout tout cela. Ça, c'est seulement les résultats, c'est les fruits. Quel est le drame de cette histoire? Le drame, c'est qu'il a quitté, il a abandonné son père. C'est la coupure de la relation du père avec son fils. C'est ça le drame. Jésus est en train de dire que le vrai drame des âmes, de vous et moi, que vous le ressentiez pas, peut-être que vous êtes encore dans la période de fête, mais la Bible dit, quoi qu'il en soit, le vrai drame des âmes et des femmes et des jeunes, c'est que à cause d'une nature déchue, nous sommes tous comme cette âme, et le vrai problème de notre vie, c'est que nous sommes séparés du Créateur. Nous sommes dans un pays lointain. Nous ne le connaissons plus. Nous n'avons plus de contact avec celui qui nous a fait pour lui-même. Et ce que nous voyons dans le monde, voilà le résultat. Quand vous essayez de faire marcher une voiture en mettant du Coca-Cola dans le réservoir, vous allez voir que ça ne marche pas comme ça. Pas? Nous sommes faits pour vivre en communion avec Dieu, dans une vraie relation avec le Créateur. Et lorsque ça n'existe plus, il y a tous ces problèmes. Donc un état perdu, c'est un état séparé de Dieu. Le mot perdre, c'est un mot qui signifie du point de vue de Dieu. J'ai perdu ce qui était à moi. La pièce était à moi, je l'ai perdue. La brebis était à moi, je l'ai perdue. Cet homme, cette femme, ce jeune, vous-même peut-être, Dieu est en train de vous dire par ses paroles, vous étiez à moi et je vous ai perdu. Quelle est l'attitude du père? Parce qu'on ne doit pas trop se mettre dans la peau du fils. La parabole, c'est au sujet du père. Qu'est-ce que Dieu ressent au sujet de vous si vous n'avez plus de relation avec lui? Je me souviens un jour à Genève, ma femme et moi, nous étions au marché, à un marché en plein air. On regardait des choses. On avait deux petits-enfants à l'époque, dont notre fils avait 3 ans, je crois. Et puis, à un moment donné, on s'est rendu compte qu'il n'était plus là. Il y avait une foule de gens. Il fallait se faufiler. On ne le voyait pas. Quelle panique! Vous avez eu ça. Sans doute presque tous les parents ont eu cette expérience à un moment donné. Ah, surtout aujourd'hui, qu'est-ce qui peut se passer en peu de temps? On ne peut pas dire l'émotion, la force de l'émotion qui nous a saisis. On commence à crier, ça ne nous disait rien si les gens nous trouvaient fous. Notre fils était perdu. Voilà, la parabole est au sujet de ça. Il est perdu, il est loin. Il est perdu dans la débauche, dans la fausseté, dans le péché, dans l'immoralité, dans une vie comme si le Père n'existait pas. Et c'est ça le péché, c'est vivre comme si Dieu n'existait pas. C'est horrible ça. Vous êtes d'accord? Si Dieu, si le Créateur existe et vous avez vécu comme s'il n'existe pas, ça c'est une horreur. Une chose de plus au sujet de la perdition et puis on attaque le deuxième des 3 points. Nous devons nous poser la question quand même, comment est-ce qu'on est devenu perdu? Et Jésus prend le temps quand même dans cette parabole de montrer. Si vous regardez au début du texte, vous voyez que dans le verset 12, juste au début, le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Une chose qui ne devait pas se faire normalement dans la culture juive de l'époque. D'après ce que nous savons, un fils ne devait pas demander son héritage du vivant de son père. C'était un déshonneur au père. Et le problème du fils, qu'est-ce que c'est? Il n'est pas perdu par accident. Bon, pièce d'argent, c'est un accident. La pièce n'y est pour rien. La pièce n'est pas une personne. La brebis est perdue peut-être par ignorance. Elle est bête, c'est une bête, n'est-ce pas? Une brebis se perd et elle ne sait même pas qu'elle appartient à un troupeau peut-être, ou à un berger. Mais si vous êtes là aujourd'hui et vous êtes loin de Dieu, ce n'est pas par accident ni par ignorance. La parabole enseigne que lorsque l'homme s'éloigne de Dieu, il le fait par un choix moral. Il le fait sciemment. C'est une question morale. C'est une question de faire ce qu'on sait n'est pas droit, n'est pas correct. Quand un fils quitte un père, ben c'est ça, n'est-ce pas? Quand il abandonne, donne-moi ce qui est à moi. Et voilà, le problème de ce jeune homme, c'est qu'il veut ce que le père a, ce que le père peut donner, mais il ne veut pas le père. On veut bien ce que Dieu peut donner. Les montagnes, le soleil, la santé, tout ce qui appartient à l'être humain, qui est l'image de Dieu, c'est un don. On aime ça, on est très content d'avoir. Mais ceux qui veulent jouir des biens de Dieu, et aimerait bien que Dieu ne soit pas dans la scène, ben vous êtes perdu. Combien de temps je l'ai vécu moi-même aussi. C'est pour ça que je le dis. Et dans le verset 13, il nous dit, peu de jours après, et Jésus met ce détail, peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, parti pour un pays éloigné. On voit qu'il ne perd pas de temps, parce qu'il en a marre d'être là. Il ramasse les affaires, il est parti, hein, une fois qu'il a l'argent, il est parti. Et il ne va pas aller juste à côté, dans le hameau à côté, pour pouvoir rester près de la famille, voir son papa chaque semaine quand même. Il va partir dans un pays éloigné. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Je sais que quand j'étais adolescent, on allait, pendant les vacances de printemps, on allait tous en Floride. Et les plages de certains endroits en Floride étaient remplies de jeunes adolescents et étudiants. Remplies, littéralement des centaines de milliers, venus de tous les États de la côte est des États-Unis. Mais pourquoi ? Ben, j'avais ma raison. Je voulais être loin parce qu'il y avait des choses que je peux faire loin de mes parents que je ne peux pas faire parce que ce n'est pas leur règle de vie. Ce serait violer les règles, et je n'aimais pas les règles, et je n'aimais pas cette autorité, et je ne voulais pas être contraint par ces règles, donc je suis allé loin, et là, je faisais ce qu'il faisait. Et Jésus est en train de dire, c'est ça le problème, c'est pour ça que si vous êtes loin de Dieu, vous vous êtes éloigné, pour pouvoir vivre selon à votre guise. On me le dit très franchement parfois, je me souviens d'une fois, parlait d'un homme au sujet de l'évangile et il dit « Je ne peux pas supporter l'idée qu'il puisse y avoir un Dieu parce que ça voudrait dire qu'il y a quelqu'un qui me dit ce que je dois faire. » C'est ça le fils. « Je ne peux pas supporter que je ne sois pas le maître. » L'absolu. Le dernier mot, le seul conducteur de ma vie. Et il pense comme ça qu'il va trouver la liberté. Et c'est une grande, grande erreur. Donc il va loin et dissipe son bien. Et le mot dissiper, c'est la raison pour laquelle on appelle cette histoire la parabole du fils prodigue. Prodigue en français ancien, ça veut dire gaspiller, dissiper. Et voilà, c'est l'histoire d'une vie dissipée, gaspillée. Tu as gaspillé ta vie si tu l'as vécue loin de Dieu, dit Jésus. Et vous voyez donc, dans son cas, l'immoralité, etc. Et tout ce qui va. Voilà. Ok ? Donc ça, c'est les choses que nous pouvons dire au sujet de la perdition d'un état perdu, ce que c'est et comment nous en arrivons là. Donc, je le dis tout simplement, chers amis, parce que nous devons prendre responsabilité. Ce n'est pas les circonstances qui ont fait que vous ne croyez pas en Dieu et vous n'êtes pas en relation avec Dieu. Ce n'est pas les autres, ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela. Des gens dans les mêmes circonstances, il y a des gens dans les mêmes circonstances que vous, qui aime le Seigneur. Et nous ne pouvons pas faire un pas plus loin à moins de réaliser qu'il y a quelque chose qui ne va pas en moi. En moi. C'est parce que je ne voulais pas les règles de Dieu que je me suis éloigné. Ou que j'ai préféré ne pas penser à l'existence de Dieu. Ou à l'évangile du Christ. D'accord ? Ok. Nous avançons. Maintenant, la deuxième chose dans la parabole, les trois paraboles, c'est les efforts extraordinaires pour retrouver la chose perdue. C'est ça ? Chaque fois, on voyait ça. Quand vous voyez la troisième parabole, on ne voit pas ça. La femme nettoie la maison, le monsieur cherche partout et laisse les autres brebis. Mais ici, on ne le voit pas. Pourquoi ? C'est pour ça qu'il faut trois paraboles. Dans cette histoire, ça n'aurait pas joué. Ça aurait été difficile. C'est un homme vieux. Est-ce qu'il va traverser des pays ? Et Jésus veut montrer aussi plutôt le côté du Fils, ce qui se passe en lui et comment il revient. D'accord ? Deuxième raison qu'on ne voit pas les efforts extraordinaires, ici, c'est que dans tout l'évangile de Luc jusqu'ici, Luc est en train d'expliquer ça. Que les efforts extraordinaires, c'est que Jésus soit là. Que le Fils de Dieu, que Dieu se fait homme, il vient dans le monde. Est-ce un effort extraordinaire ou non? Si c'est vrai que le Créateur de l'univers se fait homme à un moment donné dans l'histoire, vit dans un pays du Moyen-Orient, fait des miracles que personne ne peut faire, et meurt sur une croix, et ressuscite le troisième jour, j'appelle ça des efforts absolument extraordinaires. Et dans le reste de l'évangile de Luc, je ne vais pas prendre le temps, c'est ça, c'est le message. Il est en train de montrer que c'est le Fils de Dieu. Lorsqu'il est né, les anges chantent, « Il vous est donné aujourd'hui dans la ville de Bethléem le Christ, le Messie, celui qui était promis depuis des centaines d'années, le Sauveur. » Et voilà, un plan de Dieu depuis toujours se réalise enfin maintenant. C'est le moment. C'est l'effort extraordinaire. D'accord ? Et pourquoi est-ce qu'il est... Quel est cet effort ? Je dirais que le cœur de cet effort, c'est sa mort sur la croix. Pour cette raison. Vous ne pouvez pas être récupéré par Dieu, retrouvé et ramené si vous êtes perdu, à moins que le problème de vos péchés contre lui, des torts, des crimes que vous avez faits, soit réglé. Dieu ne fait pas d'amnistie. Amnistie, c'est une forme d'injustice dans nos pays modernes où un président, pour une raison donnée, va vider des prisons de certains gens et ils n'ont pas à payer leur peine. Ils n'ont pas à payer leur peine, tout simplement. Donc la justice, ce que la justice demande, n'est pas satisfaite dans leur cas. Ça, c'est un pardon néfaste et injuste. C'est la grâce au prix de la justice demandée à ceux qui étaient les victimes de ces crimes, s'ils sont contents d'une amnistie. Mais Dieu n'agira pas comme ça avec vous. Vous ne pouvez pas être pardonné tout simplement en revenant à Dieu. C'est impossible. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Pécher contre Dieu, c'est tellement grave. Il est infiniment glorieux que le prix du péché, de dire, oser dire non au Dieu de l'univers, c'est la mort. Physique et spirituelle. C'est la condamnation éternelle. Donc si vous allez être ramené à Dieu, il faut que cette justice, ce que la justice demande, soit satisfaite. Et c'est pourquoi Jésus meurt. Il meurt sur une croix, physiquement, et spirituellement, la Bible dit que Dieu le frappe. Dieu écrase son Fils. Et la Bible dit qu'il a porté nos péchés. Et le salaire qui nous était dû est tombé sur lui. Et il crie sur la croix, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Voilà un abandon. Voilà la justice. Nous avons abandonné Dieu et Dieu nous abandonne. Et heureusement, la bonne nouvelle, c'est qu'il abandonne son Fils à ma place. Jésus se met à ma place et il prend ma punition sur lui pour que je n'aie pas à le subir. C'est la glorieuse bonne nouvelle. La justice est faite, la peine est payée, mais Dieu peut me faire grâce et ne pas me punir. Parce qu'un autre a été puni à ma place. Donc ça, c'est l'effort extraordinaire qui est derrière la parabole. On revient à la parabole. Je vais aller plus vite maintenant. Nous allons voir comment, de son côté, le fils est revenu. Regardez au milieu du texte, le deuxième paragraphe. La Bible dit, étant rentré en lui-même, ou comme j'ai dit tout à l'heure, étant revenu à lui-même. Vous avez vu un match de boxe, les jeunes, où un boxeur a mis KO, et donc il est parti. On dit qu'il est... Oh, il est parti. Ah, il est parti. Et puis, il est revenu à lui-même. Il est revenu. Comment est-ce qu'on revient à soi-même? On est toujours là. Mais il veut dire, oui, il revient à son bon sens. Il réalise ce qu'il a fait. Donc, étant rentré en lui-même, il se dit, et c'est la première chose qui arrive à une personne que Dieu ramène à lui. C'est que la personne commence pour la première fois à se parler d'une manière comme s'il s'était réveillé. Il commence à examiner sa vie, à dire « Qu'est-ce que j'ai fait ?» Et il se dit « Combien de serviteurs chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim ?» Alors, la première réalisation de quelqu'un que Dieu ramène à lui-même, c'est qu'il a un changement de perspective complet sur Dieu lui-même. Voilà le fils qui voulait à tout prix quitter le père parce qu'il trouvait que le père était trop strict. Oh, mon père, il a trop de règles, trop strict, trop de pudeur, trop de ceci, trop de cela. dur à vivre avec. Et maintenant, après ces expériences, c'est quand Dieu, en fait, il revient à lui-même, mais il ne revient pas à lui-même par lui-même. Hein, c'est Dieu qui travaille dans sa vie. Et il réalise, attends. Je pense à tous les serviteurs chez mon père. Il est incroyablement généreux avec eux. Ils ont du pain en abondance. Ils ont tout ce qu'ils font. Ils vivent tout le monde qui est chez mon père. En fait, ils vivent bien. Mon père, il l'aime d'année. Quand je lui ai demandé l'héritage, il m'a donné ça tout de suite. Avec de la peine de me voir partir. Et moi ici, je meurs de faim. J'ai méconnu mon père, mon papa. Je l'ai méconnu. Et les hommes méconnaissent Dieu. Je me souviens de ma jeunesse en tant que jeune catholique allant à l'église parce que je devais aller détestant chaque moment de cela. Parce que moi, pour moi, Dieu était comme ce père. Le législateur de l'univers. Je n'avais pas découvert la grâce de Dieu. La clémence, la miséricorde, la tendance et l'amour de Dieu pour le pécheur. Mais étant rentré en lui-même, il commence à découvrir. Et aussi, il réalise qu'il avait tort sur sa vie. Il dit au verset 18, « Je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes serviteurs. » Révision complètement. On révise l'évaluation de sa vie. Il pensait qu'il avait raison. Ah, maintenant je suis libre. Maintenant je fais bien. Je fais ce qu'il faut. Je fais ce que je veux. Et quand il revient à lui-même, il dit, j'ai péché. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Et quand quelqu'un est ramené à Dieu, il voit sa vie qu'il a été quelqu'un de bien ou un criminel, hein. Peu importe. Vis-à-vis de Dieu, il voit, j'ai vécu en abandonnant le Créateur de l'univers, celui qui m'a fait. Et je m'en fichais de lui. Mais royalement, pas assez une seule fois de ma vie, n'ai-je remercié le Créateur de ce que j'avais. Est-ce qu'il peut y avoir quelque chose de plus horrible et plus odieux que l'ingratitude ? Dieu te comble dedans tous les jours et pas une seule fois tu ne lèves les yeux vers Dieu pour dire au Créateur merci. Tu as vécu une vie comme ça et tu réalises, tu étais bon vers tes voisins, tout le monde dit que tu es beau et bien, mais toi tu réalises que vis-à-vis de Dieu, ben non, quelle tristesse. Et donc, il y a une réalisation. Il y a un remords. Parce qu'il se sent mauvais. Pas pour lui-même, parce qu'il a tout gâché. Ça, c'est pas le remords qu'il faut. Mais le remords pour Dieu, pour ce qu'on lui a fait. Il a dû penser, le fils, qu'est-ce que mon père a dû vivre de ma part. Mince. Qu'est-ce que je lui ai fait. Et donc, une réalisation en remords, une repentance. La repentance, ça veut dire le demi-tour. Donc, il ne suffit pas d'avoir des sentiments, oh, oui, j'ai mal fait. Non, il faut quitter le pays éloigné, revenir au Père pour vivre avec lui, sous son autorité, dans la joie de sa présence. Et donc, l'appel à vous et à moi, c'est que Dieu nous appelle à ne pas rester dans un remords morbide, mais dire « Je me lève », comme le Fils dit, « Je me lèverai et j'irai vers mon Père. » Voilà. Il faut que les hommes et vous-même, il faut que vous arriviez à cette résolution par la grâce de Dieu, « Je me relèverai. » Peut-être que vous avez besoin de chercher pour voir si c'est vrai un peu plus. J'en sais rien. Lisez la Bible, cherchez. Mais il faut arriver là. Je me lèverai et j'irai vers mon Dieu. J'aurai des mots à dire, je lui dirai, j'ai péché contre toi. je lui dirai, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Parce que si tu penses que Dieu doit te reprendre, c'est faux. Tout ce que Dieu te doit, c'est la condamnation. Il veut te reprendre. C'est la grâce. Mais la grâce n'est pas un dû. Mais, donc, réalisation, remords, repentance, et je n'ai pas trouvé un autre R, un mot avec R, donc je dis remise de confiance. Je veux parler de la foi. Parce que pour revenir au Père, il faut une autre chose. Il faut la confiance qu'on va être quand même accueilli. Hein? Que le Père a assez de bonté pour me reprendre avec tout ce que j'ai fait. Il n'a pas beaucoup de confiance parce qu'il dit qu'il va dire à son Père, traite-moi comme un de tes serviteurs. Le Père, oh là là, il dépasse ça de loin. Donne-moi la meilleure robe, tout le gras. Mais le fils ne connaît pas son Père très bien. Il n'a pas vu les profondeurs de la bonté, de la grâce, de l'amour de ce Père, même pour un fils rebelle. Donc il pense qu'il a juste assez de confiance pour rentrer. Il prend ses affaires, il n'a que ce qu'il porte de toute façon, et il rentre. Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça que le retour à Dieu se fait. Nous avons parlé de la perdition, d'être perdu. Nous avons parlé donc de ces efforts extraordinaires de Dieu qui fait revenir, qui fait que ce qui est perdu est retrouvé. Maintenant, on termine avec ce point plus court qui concerne le fils aîné. Réjouissez-vous avec moi, dit la femme avec la pièce. J'ai trouvé! Allez, on va faire une petite fête ce soir. Le berger, allez les amis, je l'ai trouvé, la brebis. Venez boire un coup. Et le père dit, tout le monde en fête ce soir. Mon fils, que je croyais mort, il est revenu au nom de Dieu. Il est revenu physiquement, il est revenu spirituellement, il est revenu dans son cœur à moi. Réjouissons-nous, c'est le jour de ma vie. Et donc la fête commence. La fête commence d'abord chez le Père, quand il voit. Vous voyez au début du troisième paragraphe, là, comme il était encore loin, son Père le vit et fut ému de compassion. Pourquoi est-ce qu'il le vit de loin? Si vous vous mettez dans la scène que Jésus veut peindre devant nos yeux, vous avez le vieillard, et il est là, et comme tous les jours, il regarde cette route qui part au sud, par laquelle le fils est parti. Ça fait combien de mois qu'il a fait ça? Ça fait combien d'années qu'il a fait ça? Et les serviteurs disent, pourquoi est-ce qu'il fait ça encore? Fils va jamais revenir. Et le père regarde ses yeux. Ils peuvent pas voir très loin maintenant, peut-être, mais il regarde. Parce qu'il espère, il pense à lui. Et c'est pour ça que lorsqu'il est encore loin, le père est très au courant. Et lorsqu'un homme, une femme, un jeune est en train de revenir à Dieu, la Bible, Jésus, je n'invente rien, Jésus est en train de nous dire, ça c'est l'attitude du Créateur, il est comme ça, c'est lui là. Il fut ému de compassion. Il fait ce qu'un père normalement ne fait pas dans la culture juive du premier siècle. Il porte une longue robe, il doit prendre ça, il doit la hausser et l'attacher ici, et il court. Ouais. 65 ans, 75 ans, le courir. Et il tombe sur le cou de son fils. Il ne peut pas arrêter de le baiser. Et la Bible, notre Seigneur dit que Dieu est comme ça, il a toujours été comme ça, il est comme ça de nature, personne ne peut imaginer avant de le vivre que Dieu puisse être comme ça. Le Dieu qui nous a fait bonté infinie, grâce infinie, inouïe, incomparable. C'est ça l'évangile. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, dit Jean chapitre 3, verset 16. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, qu'il n'a pas épargné Jésus-Christ sur la croix, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et puis cet accueil, le Fils voulait dire, je ne suis pas digne d'être ton fils, fais de moi un de tes serviteurs, le Père lui coupe la parole. Ça, non. Donne-moi la meilleure robe, pas la robe des serviteurs, la meilleure robe. Donne-moi l'anneau. L'anneau, dans la culture juive de l'époque, c'est le signe de l'héritier. Tu le vaugras. Jésus est en train de dire, lorsque Dieu pardonne, le passé n'est plus. Le passé n'a pas le droit de venir déterminer ma relation avec Dieu aujourd'hui. Mes péchés, tout ce que j'ai fait contre le Seigneur, n'a pas le droit de faire de moi un simple serviteur plutôt qu'un fils. Parce que le pardon veut dire que Dieu a effacé dans sa grâce. Mais vraiment effacé. C'est formidable ça. Absolument formidable. Et la joie commence. Et la fête commence. Il y a juste un problème, c'est le fils aîné. Il s'appelle Georges. Non. Il revient, rappelons-nous, il représente ces pharisiens, ces hommes religieux qui ne sont pas réjouissants avec Jésus, lorsqu'il retrouve les prostituées, lorsqu'il les ramène à une vie avec Dieu. Il revient, il entend la nouvelle, il ne veut pas entrer. Le père sort dans sa patience, dans sa gentillesse, dans son amour, même pour le fils aîné, parce qu'il aime les deux. Et voilà, il se plaint. Voici tant d'années que je te sers comme un esclave. Maintenant, on apprend quelque chose d'inouï. Et les pharisiens qui sont là, oh, oh. Maintenant, ils disaient, oui, tout en allant la parabole. Oui. Et puis, quand le fils est reçu comme ça, leur mine a changé. Et puis, quand le fils est né, et comme ça, ils se sentent un peu mal, parce qu'ils se sentent visés. Hein? Voilà, je n'ai jamais transgressé tes commandements. Vous voyez, cette justice propre, je suis tellement bon, moi. Mais nous découvrons que le fils aîné était aussi loin que le fils prodigue. Géographiquement, il était à côté. Mais vraiment, dans le cœur, il n'était jamais avec son père. Il n'était jamais avec son père. Je t'ai servi comme un esclave. Il n'était pas un fils, il était un esclave. Dans son cœur. Tu m'as jamais donné. Il n'a jamais vu la bonté de son père assez pour lui demander un chevreau. C'était ça le problème. Le père lui aurait donné. Il méconnaissait son père comme le fils prodigue. Les deux. Même péché. Forme différente. Il y en a un qui gaspille son argent dans la danse. Il y a l'autre qui garde son argent et n'apprend jamais à danser. Mais les deux dansaient de joie dans l'amour de son père. Mais les deux, je ne sais pas si on dit ça en français, disgrâce. Non, ça ne peut pas se dire, si. Non, j'invente, ok. En anglais, il y a un mot disgrace, alors ça veut dire de déshonorer. Mais le mot est intéressant parce que ça a le mot grâce et le préface qui veut dire de défaire. Ils ont défait la grâce de Dieu. Ils ont enlevé, par leur manière de voir Dieu, ils le voyaient comme un Dieu qui n'était pas aimant, qui n'était pas admirable. Voilà, le même péché. Et celui-là, il est plus grave, parce qu'il ne revient pas à lui-même. Il veut un Dieu qui m'accepte à cause de ce que je suis. Ah, tu veux cette sorte de Dieu? C'est très grave. « Moi, j'ai pas ton respect. Lui, oui, il faut que tu acceptes quelqu'un à cause de ce qu'il est. Il veut que sa justice propre soit l'absolu, le centre, le point déterminant de l'existence. Et Dieu dit non, c'est pas ta petite justice qui est le point déterminant de l'existence. C'est moi, c'est que je suis. C'est ce que Dieu est qui détermine s'il va te recevoir ou non. C'est pas que tu es bon, c'est qu'il est gracieux. C'est ça la leçon de la parole. C'est une bonne nouvelle. Dieu te reçoit à cause de son amour. Si tu reviens, si tu reviens pas, ça c'est à toi. Mais quel bonheur pour moi le jour où on m'a expliqué ça en prenant la Bible. Et je me souviens de cette illumination de mes yeux. Tout a changé. Peut-être que vous êtes là, vous êtes en train de dire, si ce que tu dis est vrai, que Dieu est là et qu'il est comme ça, ça change tout. Exactement, ça change tout. Maintenant, il y aurait plus à dire. On ne peut pas le dire ce matin. Mais je vous prie de retenir ceci. C'est que Jésus nous révèle Dieu. On ne peut pas le voir. Il est pur esprit, invisible et infini. Mais il s'est fait chair dans la personne de Jésus-Christ et Jésus révèle qu'il est exactement comme ça. C'est une bonne nouvelle. Et est-ce que vous ne devez pas vous dire, moi j'ai méconnu ce Dieu. Je l'ai méconnu. Si oui, vous avez besoin aussi de faire le chemin de retour. C'est entre vous et Dieu. Et je vous encourage de lire le Nouveau Testament de la Bible, de découvrir ce Dieu qui se révèle, qui s'est révélé au fil des siècles aux hommes, comme ça. Un Dieu digne d'amour, un Dieu sage et compatissant, juste aussi, mais un Dieu qui aime le pécheur, malgré ses péchés. Heureusement, parce que nous en avons tous beaucoup, même nous qui avons été retrouvés, qui sont revenus à la bergerie. Nous avons plein de raisons d'être contents de jour en jour pour un Dieu qui aime le pécheur. Non pas que ça nous motive à pécher, au grand jamais. Quand tu as rencontré un tel Dieu, tu ne veux plus vivre contre lui, l'abandonner. Mais oh quel bonheur de savoir que Dieu est là, et il s'est vu dans la face, dans le visage de Jésus-Christ. Il est un Dieu qui parle. Si vous pouvez retenir cela, le reste viendra. Que Dieu vous bénisse, surtout si vous êtes venu aujourd'hui pour la première fois. Prenez un ou deux livres pour vous aider à comprendre mieux. Et dites-vous, je dois vraiment regarder tout cela de très très près pour voir si c'est vrai.